Il faisait chaud. Une chaleur de four. Encore 40 à minuit. Mettre le nez dehors, c'était comme tomber tête la première dans une bassine de barbe à papa, brûlante et poisseuse. Tenté de retourner dardard dans le bouib climatisé, je me suis dit que Jerry Watts ne manquerait pas de me harceler à nouveau avec ses tournées de pisse à d'âne et ses réflexions débiles sur la gent féminine et la vie en général. Je me suis mis à la colle avec une jolie petite Philippine, mamie qu'elle s'appelle. Tous mes vœux, mon pote. Et une fois que Jerry en aurait fini avec ses histoires de tombeurs de faune, ils allaient sans doute ramener le papy dans un fauteuil roulant afin qu'il refasse son numéro avec la stripteaseuse suivante. Tant pis pour la foutue chaleur, je me casse. Darwin by night. Des poivrots en short kaki vacillaient le long des rues. Un quatuor d'aborigènes assis sur le bord du trottoir, pieds nus, se repassait une bouteille de rhum Bundaberg. Ici et là, une belle de nuit version australienne, blonde oxygénée, mini-short et lèvres desséchées par le vent du désert, attendait la prochaine passe à l'ombre d'un hôtel à 12 dollars la chambre. Parfois, on tombait sur une représentante de l'association des adolescentes à la dérive qui, après 8 ou 10 rhum coca de trop, vomissait son dîner dans une poubelle. Ah, j'aime trop cette ville, mec. Pas moi. Je la détestais. Elle m'avait révulsé dès le début. La veille au matin, lorsque j'avais émergé hébété d'un vol de 36 heures en provenance de Boston, avec escale à Londres et Jakarta. Descendu dans un motel bon marché, j'avais demandé au réceptionniste de m'indiquer la direction du centre-ville. « Le centre-ville ? Mais t'y es ? » avait-il répondu. Darwin Centre, c'était 2 ou 3 gratte-ciel pour la frime, une mer d'immeubles en parpaings sinistres et une grande rue transformée en galerie marchande bétonnée. Comme l'ancienne ville avait été emportée par un mémorable cyclone le jour de Noël 1974, tout était neuf, mais avec un côté éphémère, déjà ringard, un assortiment d'architecture moderne pour jour de solde. Après une journée et demie gâchée dans un avion, quelle était la récompense ? Un cauchemar suburbain et subtropical avec en prime quelques bars à striptease minables. La nuit avait au moins cet avantage que le thermomètre dégringolait des sommets atterrants qu'il atteignait à midi. Mais c'était aussi le moment où Darwin appartenait à ses marginaux et à ses cinglés, où Jerry Watts et l'autre papy prenaient le haut du pavé, où... « Tu cherches de l'action, mec ?» La voix venait des ténèbres. J'ai continué à marcher, mais l'homme invisible a insisté. « J'ai dit, tu cherches de l'action, mec ?» Je me suis retourné d'un bloc. Un type d'une vingtaine d'années venait d'émerger d'une vieille Holden cabossée. Maigre comme un clou, cheveux longs et raides, un paquet de cigarettes coincé dans la manche de son t-shirt, des yeux aussi expressifs que 2 cubes de glace, qui vous amenaient à vous demander si ce garçon avait subi une ablation du lobe frontal, qui vous laissait prévoir le pire aussi. « Je pose une question, je prévois une putain de réponse !» a articulé le gamin. « Alors, tu veux une nana ?» Engoncée dans le siège passager de la Holden, une fille qui devait peser dans les 120 kilos se remettait du rouge à lèvres en se regardant dans le rétroviseur, tout en tirant sur une cigarette. Elle avait un triple menton, de la cellulite qui débordait de partout. Son Mac aurait pu facilement lui faire sa pub avec une formule du genre « couchage confort, 2 places et plus ». « Tu la veux ?» a demandé le maigrichon. « Non merci. »«
Je te le dis, moi, c'est une bonne. Bonne de chez bonne. » « J'en sais quelque chose, c'est ma nana !»
Tournant les talons, j'ai repris ma marche en hâte, tandis qu'il hurlait dans mon dos.
« Enculé de branleur Yankee ! Rien dans la culotte, la merloc !»
La conclusion parfaite d'une charmante soirée à Darwin. Mon motel n'était qu'à 2 pâtés de maison. Entré au pas de course sur le parking, je me suis retourné pour m'assurer que l'autre ne m'avait pas suivi avec son phénomène de foire, puis j'ai filé à mon bungalow, tout près de la piscine dont la peinture s'écaillait dans une eau saumâtre. Après m'être battu un moment avec la serrure, je me suis jeté à l'intérieur, claquant la porte à la face de la nuit. Ma chambre. Une boîte en béton badigeonnée de rose, une moquette en nylon criblée de brûlures de cigarettes, un lit plein de bosses, un frigo en panne, une télé payante, un climatiseur datant d'avant le déluge que j'avais laissé allumer en sortant. Il était visiblement pas à la hauteur, car on se serait cru dans un hammam. Il ne me restait plus qu'à enlever mes fringues trempées de sueur, à les rouler en boule dans un coin et à me réfugier sous la douche. L'eau était d'un froid polaire, et d'un marron peu rassurant, mais ça m'était égal. Tout ce qui pouvait noyer les mauvaises vibrations de Darwin était bienvenu. Les serviettes du motel étaient aussi fines que des hosties, et à peu près aussi absorbantes. Quand j'ai tenté d'en nouer une autour de ma taille, 10 kilos de bourrelet m'en ont empêché. Alors que j'improvisais, me confectionnant une sorte de pagne avec la serviette, j'ai surpris mon reflet dans la glace, et ce que j'ai vu, un gus de 38 ans présentant tous les signes habituels d'un quinquagénaire qui se néglige, ne m'a pas plu du tout. Le ventre était mou et relâché. Un vilain amas de graisse pendait sous mon menton. Mes cheveux blonds étaient ternis de mèches grises. Des cernes de fatigue permanente se creusaient sous mes yeux et mes tempes étaient parcourues d'un réseau de rides aussi complexe qu'une carte de chemin de fer. Je paraissais là, bouffi, accablé par l'existence. Une cigarette s'imposait. Avant de quitter les États-Unis, j'avais mis fin à une parenthèse de 7 ans en recommençant à fumer. Et j'en étais déjà à 2 paquets quotidiens de Camel sans filtre. La respiration sifflante du temps jadis était de retour, tandis que j'expectorais chaque matin une huître brunâtre et que mes dents prenaient une belle nuance terre cuite. Reprendre la clope était ce que j'avais fait de plus positif depuis des années. Saisissant la cartouche duty-free sur la table de nuit, j'en ai extrait un nouveau paquet de Camel. Cigarette au bec, j'ai ouvert mon zippo d'un coup sec et pris une grande bouffée. Bingo. Extase immédiate. À quoi ça sert de s'exténuer à la poursuite du bonheur quand les seules satisfactions que ce monde vous apporte sont aussi intenses que temporaires, aussi gratifiantes que modestes? Une douche froide après avoir cuit dans son jus toute la journée, une cigarette qui vous fait tellement de bien que vous avez l'impression, en tout cas à l'espace de quelques instants, d'être parvenu à la sérénité. Cette fois, la béatitude a été aussi brève qu'un coup tiré à la va-vite. Elle s'est évanouie dès que mes yeux se sont posés sur la carte de l'Australie qui était encore dépliée sur mon lit. Foutue carte. Je l'avais laissée me séduire, m'entortiller avec ses promesses. C'était elle qui m'avait entraîné. À Darwin. J'aurais préféré ne l'avoir jamais connue. Notre rencontre avait eu lieu dans une librairie de Boston, par un après-midi de février très gris, très glacial et très déprimant. Quelques jours plus tôt, j'avais abandonné mon emploi dans un journal du Maine, le 4e essai non concluant dans une errance professionnelle qui durait depuis près de 10 ans. Tel un musicien itinérant, j'avais sillonné la côte Est dans ma vieille Volvo, cherchant les piges dans des feuilles de choux provinciales. J'avais tenu un moment à Schenectady, État de New York, à Scranton, en Pennsylvanie, à Worcester, dans le Massachusetts, et enfin à Augusta, dans le Maine. Un enchaînement de canards obscurs dans des coins oubliés par l'actualité. Souvent, mes collègues, dans ces salles de rédaction assoupies, s'étaient étonnés de mon insistance à hanter des villes ouvrières ravagées par la crise post-industrielle de cette décennie, pendant laquelle je n'avais pas essayé une seule fois de tenter ma chance dans un vrai journal de Philadelphie, de Boston ou même de la Grosse Pomme. Mais c'est que je ne cherchais pas à explorer les plus hautes sphères de l'excellence journalistique. Au contraire, je me satisfaisais très bien de ce vol à moyenne altitude, au milieu d'une médiocrité qui avait le grand avantage de ne me retenir nulle part, de me préserver des affres et des délices de l'ambition. Au bout de 2 années à couvrir les réunions des conseils municipaux, les fêtes paroissiales et de temps en temps les carambolages du samedi soir sur l'autoroute, j'étais prêt à passer à l'étape suivante. Et c'est pourquoi, ayant mis fin à ma collaboration de 28 mois avec l'Augusta Kennebec Journal, j'avais récemment entassé tous mes biens à l'arrière de mon break Volvo avant de mettre cap au sud sur la I-95. Je me rendais dans l'Ohio, où la vigie d'Akron était disposée à m'embaucher. Mais sur la route de la capitale du pneumatique, j'ai décidé de m'arrêter flâner quelques heures à Boston. Après avoir pris une chambre dans un petit hôtel de Boylston Street, j'ai pris le tram jusqu'à Cambridge et j'ai commencé à écumer les bouquinistes autour de Harvard Square. Dans la première échoppe où je suis entré, j'examinais le rayon des guides de voyage quand j'ai remarqué une boîte en carton pleine de cartes routières d'occasion, presque toute américaine. Et puis, je suis tombé sur une pièce inattendue. Une carte de l'Australie éditée par le Royal Automobile Club en 1957. 1,75 $. Je l'ai déplié sur le sol. Cela ne ressemblait à rien de ce que je connaissais.